Question d'islam par Alim Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de foi, de doute, d'agnosticisme, d'athéisme, en tout cas de recherche de Dieu, du divin, d'essayer de le comprendre aussi par toutes les questions qui taraudent la conscience humaine. Pour en parler, j'ai plaisir à accueillir Khaled Romo. Khaled Romo, bonjour.
Bonjour, Alep.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes écrivain, essayiste, romancier et surtout poète. Et vous êtes engagé dans toute cette mouvance du dialogue des cultures et du partage des expériences à la fois spirituelles, culturelles, on dira même religieuses. Vous êtes un témoin vivant de ce cheminement, de cette élévation. Ce qui m'a intéressé, pardonnez-moi de commencer d'emblée en parlant de cette inclination que j'ai pour votre œuvre, c'est que vous vous assumez comme homme de foi, comme un homme croyant, et en même temps, c'est important de dire de nos jours et en même temps, comme un homme aussi qui est proie au doute, qui est traversé par un questionnement véritable. Et donc, vous avez composé un ouvrage intitulé « Le Coran déchiffré selon l'amour ». Vous avez aussi écrit un autre livre « Quand s'exhale ton parfum ». Et là, vous venez avec un autre ouvrage « L'enfant voyageur » où vous laissez la part belle, effectivement, à l'agnosticisme. C'est un cheminement à rebrousse-poil par rapport à la foi, Khaled Romo, ou c'est dans la logique naturelle des choses?
C'est plutôt dans la logique naturelle des choses parce que nous naissons, d'après mon expérience, agnostiques et nous quittons cette vie agnostique. Et en le disant, je suis fidèle à une expérience intime de Dieu, mais aussi mon expérience d'être humain. Et quand je dis nous naissons agnostiques, nous quittons cette vie agnostique, je peux me baser sur des versets coraniques, sinon certains pourront dire cet homme n'est pas musulman, qu'il soit musulman ou pas. Parce qu'il y a des gens, des compatriotes, nos contemporains, qui ont besoin de mettre des clichés sur les êtres, de les cerner, de les mettre dans des cases. Personnellement, je dis que c'est une vision coranique de la condition humaine, mais pas que coranique, elle est dans les autres écritures. Parce que nous ne connaissons rien du mystère, avec grand M, ou si peu. Si peu, et il y a plein de versets coraniques qui le disent, et je ne veux pas citer les autres écritures, bouddhistes, hindous, chrétiennes et juives, etc. Il y a juste un verset coranique qui me vient à l'esprit, que quand l'être humain approche la mort et il essaie de mettre la main, je paraphrase, sur ses œuvres, il ne trouve rien, parce que ses œuvres lui échappent. Et la plupart des personnes qui ont parlé de l'approche de la mort disent qu'il ne reste rien, que des souvenirs, mais des souvenirs minimes, et qu'ils ne maîtrisent pas l'ensemble de leur vie, ce qu'on pourrait appeler la synthèse. Tout cela nous échappe. Et vers quelqu'un, si on est dans une perspective de foi, qui a le nom Hafiz, celui qui
retient par cœur le Coran.
Ou plutôt, des noms de Dieu, Dieu qui garde tout pour nous. Du bien et du mal, hélas. On aurait souhaité qu'il ne garde que le mal, que le bien, mais voilà.
Et le lapsus est un peu révélateur.
N'est-ce pas? Parce qu'on en a peur de la vision de soi-même, comme dans l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, Huis clos, où les personnages se retrouvent dans un endroit dont ils ne peuvent plus sortir et ils apparaissent comme ils sont. Personne ne peut plus jouer sur des excuses autres. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis, oui, nous sommes dans l'agnosticisme. Et donc, nous recevons ce plus, moi je dirais, que nous appelons la foi. Nous la recevons cette fois comme un cadeau. Bon, je suis obligé, désolé, Ghaleb, de citer beaucoup les Écritures, mais...
Vous n'avez pas à être désolé. Permettez-moi simplement, à ce sujet, là, c'est à bon escient et à juste raison, ce qui pourrait être pour certains, et je le dis au conditionnel gênant, c'est de se prévaloir du Coran ou de tout autre texte en extrayant hors contexte tel ou tel passage, alors qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte selon la formule désormais consacrée.
Et pire, on se prend soi-même en otage. Si c'était que le Coran est un texte neutre, innocent, vous le mettez sur une étagère et des siècles, il ne bougera pas. Mais alors, soi-même, on devient otage. Bon, bref. Là où Dieu parle au prophète, je le dis en arabe pour plus de crédibilité, وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى. Il t'a trouvé errant, et il t'a guidé, il t'a mis sur la voie, mais il y a l'autre sens, il t'a fait un cadeau. Il t'a donné la foi comme une grâce, un cadeau gratuit, sans aucune contrepartie. Et un autre verset, tu ne savais pas ce que c'était le livre, ni la foi. Mais c'est une grâce qui t'a été donnée de la part de ton Seigneur. Comme quoi, la foi est toujours une grâce permanente et continue pour ceux et celles qui, et je ne juge personne, qui savent la recevoir, cette foi. Donc, cette assise coranique, spirituelle...
Khaled Oumou, oui. Pardon, je vous interromps. Est-ce à dire que ceux qui n'ont pas reçu la foi, ceux qui sont athées, sont... atrophié, démuni, privé de cette grâce ou de ce cadeau.
Merci de rattraper les choses pour moi, pour nous deux, Ghaleb, parce que ça fait partie de mon combat personnel, modeste, minime, contre les croyants atrophiés. Une fois, j'ai invité une personne notable, elle est devenue députée dans un parlement arabe, librement élu, je ne nomme pas le pays, parce que dans tous les cercles...
Le librement, ici, l'adverbe est sujet à caution.
Non, c'est vrai, Ghaleb, c'est vrai, l'expérience, mais je ne veux pas trop donner de précision parce qu'on va repérer le pays. Et donc, dans toutes les instances ici de dialogue interreligieux, on ne jurait que par son nom, comme si elle était vraiment la représentante du vrai islam. Parce que chez nos frères chrétiens ou juifs ou autres, il faut que le musulman, la musulmane soit pratiquant, pratiquante. Il faut qu'il y ait des signes religieux, alors même que la République est contre les signes.
Ostentatoire.
N'est-ce pas? Donc je dis que cette personne, quand elle entrait, son foulard entrait avant elle. Elle le montrait. Alors on me dit, mais pourquoi tu ne l'invites pas à ton atelier itinéraire spirituel où j'invitais des personnes de différentes spiritualités pour témoigner? Je l'ai invité une fois et j'avais une question test. Qui répond à votre question. Qu'en est-il des agnostiques et des athées? Je lui ai dit. Parce que pour moi, le croyant ou la croyante qui disent c'est des personnes qui ne cherchent pas, ou dont le sens d'amour est atrophié dans leur cœur, ou autre chose, toutes les projections possibles et imaginables, ou bien il y en a qui disent je ne sais pas. Je m'occupe, je cultive mon jardin, c'est tout. Comme a dit Voltaire, il ne s'occupe pas des affaires des autres pour leur donner des orientations. Alors je lui dis, qu'en est-il des agnostiques? Elle me dit, mais la foi c'est comme le courant électrique. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, parce que je connaissais cet argument. Elle dit, comment cela? Elle m'a dit, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mon Dieu, je me suis dit, mais quel simplisme si on ramène... La question du mystère est grand thème à un geste mécanique de la part de l'être humain, appuyé sur le bouton. À la limite, dans une perspective de foi religieuse, on a annulé le rôle de Dieu. Il est lui-même, il devient notre, presque notre jouet. Mais les gens qui parlent comme ça ne se rendent pas compte de la gravité de leur posture. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, et je reconnais, je confesse devant vous et devant les auditeurs que j'ai été... malveillant à propos de l'adverbe « librement » parce que je vois de qui il s'agit, je ne dirai pas laquelle, mais le Parlement a été effectivement élu selon les normes démocratiques que nous connaissons.
Voilà, bien. Voilà.
En revanche, en ce qui concerne la question, oui, j'ai toujours cru comprendre à mon niveau, sans vouloir compartimenter les consciences humaines dans des catégories, qu'on en a en gros trois. Il y a ceux qui disent de nihil ou nihil, rien ne procède de rien, il n'y a pas de création ex nihilo, il n'y a pas un être premier créateur, libérateur des êtres, émancipateur et aimant les êtres humains. Bon, ça c'est une profession de foi fondée sur la négation de cet être premier, et c'est respecté et respectable, admirable même. Il y a aussi ceux qui disent... Pardonnez-moi, je le dis en latin, comme le poète Juvénal, « Vitam in pendere velo ». Ma vie durant, je chercherai la vérité, je ne tranche pas. Tantôt, je pense qu'il y a un être premier, et il y a quelqu'un qui est notre cause première, et tantôt non, et donc on oscille. C'est douloureux, mais c'est conforme à la dignité de l'homme qui cherche. Et la troisième catégorie, c'est celle de ceux qui tranchent. Ils disent, moi je crois qu'il y a une origine non mécanique à tous les mécanismes, qu'il y a un être fondateur du hasard anti-hasard. Et ça, je vous la poserai à vous cette question et que je soumettrai à votre sagacité. J'ai appris qu'il y a un aphorisme dit de la tradition sainte qui dit « Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier en cherchant après lui qu'en ayant cru en lui tout en le méconnaissant ». Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître ? C'est de ne pas l'honorer en l'homme, réceptacle du souffle divin, récipiendaire de cette effusion de bonté et de miséricorde. Question donc, Khaled-Romou, vaut-il mieux croire aveuglément en un Dieu, quitte à commettre les pires méfaits en son nom, ou continuer à chercher après lui, mais en honorant l'homme qui est son icône et son vicaire sur terre ?
Évidemment, sans aucun esprit partisan, moi je suis pour la troisième cas de figure. Raleigh, nous nous connaissons bien et je suis heureux de cette connaissance parce que ça soutient chacun, chacune dans sa recherche solitaire. Parce qu'il faut qu'on ajoute le mot solitude, fondamentale et fondatrice de l'esprit humain, la solitude. C'est dans cette solitude que tout se joue, tout se cherche. Néanmoins, faut pas qu'on il tape sur les musulmans. Je vais donner des exemples de chez mes sœurs et frères chrétiens que j'aime beaucoup et à qui je dois beaucoup. Par exemple, un jour, un moine que vraiment j'affectionnais beaucoup, il me dit, mais Khaled,
vous le dites à l'imparfait.
Oui, il a
vous
disparu.
Vous continuez. Ah, d'accord.
Il est parti de l'autre côté. Paix à son âme, comme on dit chez nous. Allah yirhamo. Qu'est-ce que tu penses de la...
Que Dieu le prenne en toute sa miséricorde.
Exactement. Qu'est-ce que vous rappelez la tsunami là, du côté de l'Indonésie. Mais j'ai dit, Pierre, mais que veux-tu que je pense ? C'est catastrophique. C'est tragique. Il me dit, mais Dieu. J'ai dit, mais je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Je ne suis pas dans ses intentions. Quelle que soit l'explication qu'on donne, c'est... À la limite, je ne sais pas, je dirais que ce serait plus catastrophique que la catastrophe elle-même. Si c'est une punition pour les péchés des êtres humains, mais c'est terrible. Il y a eu des innocents, il y a eu des enfants. Si c'était pour nous rappeler sa présence, mais quelle méthode pédagogique ! J'ai dit, je n'ai rien à dire. Mais Khaled, ce n'est pas possible. Quand on a la foi en Dieu, il faut trouver une explication. À partir de Dieu, j'ai dit, si toi tu la trouves, dis-la moi. Évidemment, il a répété des explications connues dans toutes les religions où c'était un regard extérieur sur les choses. Et je lui ai cité l'exemple du roman d'Albert Camus dans La Peste. Et quand il y avait un prêtre qui prêchait, disant aux habitants de la ville, ce sont vos péchés, vos méfaits, etc. Et il y a le personnage principal qui emmène un bébé et lui dit, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait comme péché ? Donc, ce regard extérieur sur les choses est navrant. Moi, je lui substitue un regard pour comprendre, pour comprendre ceux et celles qui parlent de Dieu. Mes préférés dans toutes les traditions spirituelles, c'est une histoire d'amour. Alors, il l'aurait signifié qu'il y a quelqu'un qui les aime et qui cherche à les ennoblir, à leur conférer une dignité, à les sauver de l'enfer, de l'enfer humain, du huis clos de Sartre, je le recite, et de la nausée. Et donc, nonobstant toutes les épreuves qu'ils endurent, il y a quelque chose qui non seulement transcende la laideur, l'injustice, la méchanceté, mais qui anime de l'intérieur, dans une sorte de proximité indescriptible, l'être humain dans ses espoirs, dans ses désespoirs, dans ses angoisses, dans sa quiétude, etc. etc. C'est une relation d'amour profonde qu'il s'agit de sonder en nous. Alors, si on ne trouve aucune voix, aucune présence qui nous tend la main, moi je dis c'est pas grave. Mais si nous avons l'impression qu'il y a quelqu'un, une présence, bah il faut pas la négliger, je crois. Hein, il faut. Je le dis entre doute et certitude, mon cher Alain. Je le dis entre doute et certitude. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'agnosticisme est la base de la foi de ceux qui disent nous avons la foi. Ils partent toujours de l'inconnaissance vers une petite connaissance partielle et éphémère et qui ne dure pas. On est tout le temps baladé dans les trous de l'espace. Il y a de temps à autre quelques oasis de tranquillité, quitte à ce que de nouveau nous soyons chamboulés. Et moi je dis c'est un plan divin. Je ne comprends pas pourquoi, je me dis toujours, il aurait pu faire autrement, parce qu'il est puissant, il est savant. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a l'équation à des millions d'inconnus de ce monde, de nos êtres, etc. Mais il se trouve que, hélas, bon, je le dis, c'est pas grave, de toute façon, on va pas me traduire devant les tribunaux de la conscience humaine. Dès qu'il y a un instant de paix, de sérénité, tout est pardonné. C'est moi qui lui pardonne de m'avoir envoyé dans ce monde. Parce que le prix est lourd. Le prix à payer, il est lourd, il est énorme. Quand notre conscience est éveillée à la qualité de la vie humaine, à cette dignité dont j'ai parlé et à laquelle nous croyons, qu'on soit agnostique ou ayant la foi, j'aime pas le mot croyant. Peut-être j'aurai le temps de dire pourquoi après. Eh ben nous aspirons à cela. Nous aspirons à cela. Et c'est peut-être, ou sûrement, son plan, mais encore faut-il qu'il nous le montre. Toujours, toujours cette exigence. Encore faut-il qu'il se montre, qu'il nous montre. Sinon, ça ne vaut pas la peine.
Khaled Roumou, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je reviens à l'exemple que vous avez emprunté à une autre tradition religieuse, la tradition chrétienne. Et je lui emprunte moi aussi la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Donc je souhaiterais que vous nous preniez des exemples aussi des imams autoproclamés pour certains, pour d'autres formés à cette vision exotérique, j'ai dit dans une émission précédente, desséchée, asséchée, desséchante, aussi ritualiste, où la foi doit être aussi mise en exergue par des pratiques, par une certaine normativité, de plus en plus obèse, de plus en plus grosse et qui étouffe. Pour vous, ce n'est pas ça l'essentiel de l'élévation spirituelle.
Pour moi, c'est rien. Mais c'est un rien terrible. C'est des armes de destruction massive. C'est-à-dire, ça ne mérite même pas le temps de s'attarder. Parce que quand j'essaie de penser ces gens, ou ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils disent, je perds mon temps de recherche. Vous voyez, non pas que je ne sois pas contre, mais je trouve que le fait de s'attarder sur cette ineptie dangereuse, c'est une perte de temps et de bonheur. Je préfère l'angoisse existentielle qui m'est propre à leur certitude rassurante, parce que je sais que leur certitude jaillissent d'une inquiétude à laquelle ils n'osent pas faire face. Ça, nous le savons, mais je ne vais pas les psychanalyser. De toute façon, ils sont les mêmes qui ont tué Gandhi. en Inde. Ce sont les mêmes à qui le Christ parlait pour les éveiller. Ce sont les mêmes à qui Mohammed a parlé à la Mecque. C'est les mêmes générations d'êtres humains qui méritent tous les qualificatifs que vous avez utilisés, mais qui mon cher ami Raleb, là, c'est le problème du mal qui est posé. C'est le problème du mal, et ça, c'est très complexe. Et moi, tout mon agnosticisme, ma révolte spirituelle, tourne autour de cela. Pourquoi fallait-il que le mal ait la liberté d'agir dans le monde ? Voilà.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. On parle aujourd'hui avec vous, Khaled Romou, qui êtes écrivain, romancier, poète, essayiste aussi. Vous êtes engagé dans la mouvance du dialogue des cultures et des spiritualités. Nous étions là sur une question centrale, inhérente à la condition humaine. Elle est intrinsèque à l'homme, la question de la liberté, la question du mal, ce scandale du mal. Et pour vous, c'est au cœur de ces considérations de foi et d'agnosticisme.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une question que je me suis posée récemment, évidemment existentielle, parce que tout ce que nous endurons de nos jours, pas simplement dans nos pays d'origine, mais à l'échelle de la planète.
Quand vous parlez de pays d'origine, vous êtes d'origine syrienne.
Exactement. Mais je parle de certains chefs d'État de grande puissance, que je ne veux pas nommer, etc. Mais l'humanité est éprouvée durement par ces responsables. Comment vous les appelez, vous, les hiérarques ? C'est ça, voilà.
Qui ont failli, de mon point de vue. L'article lait est toujours délicat, donc... Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence que de prendre le conjoncturel pour le structurel, et surtout les généralisations sont abusives. Donc ce ne sont peut-être pas les hiérarques,
certains.
Mais un certain
merci,
d'entre eux,
merci.
Et un grand nombre d'entre eux même, j'ose le dire, n'ont pas été fidèles à leur mission d'être peut-être des guides ou des thérapeutes de l'âme, ou en tout cas des emblèmes identificatoires pour une jeunesse déboussolée et laissée pour compte.
Voilà, donc nous subissons tout cela. Même si je ne suis pas touché directement par le mal que la politique internationale génère, le simple fait de voir ce mal sévir, ça m'arrache les entrailles et le cœur. Je suis peut-être fragile de constitution, mais je préfère cette fragilité, n'est-ce pas, à une certaine force. Néanmoins, je me suis posé une question, donc personnelle, individuelle, mais après, si je regarde le texte coranique, nous sommes dans une émission sur l'islam, et je posais l'être humain entre l'ennoblissement originel et l'avilissement contingent. Alors, on détaille un peu, je tire ça du Coran. Pourquoi est-ce que Dieu a planifier les choses de la sorte. Il le dit, il nous informe, il nous dit c'est comme ça que vous allez traverser la vie. Mais, est-ce que je ne suis pas, par la douleur qui s'empare de moi, autorisé à me poser la question « Pourquoi ?» Il répond aux anges dans le coin, « Je sais ce que vous ne savez pas. Mais moi, en tant qu'être humain, et ici, là, à Radio France, dans cette émission, je lui dis « Qu'est-ce que tu sais que nous ne savons pas de notre sort ?» Il répond aux anges quand ils sont scandalisés par la vocation de l'être humain à répandre le sang et à semer la corruption. Dieu leur dit, il nous défend. Il défend son chef-d'œuvre, c'est-à-dire les humains. Il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Or, moi je voudrais savoir ce que les anges ne savent pas de notre nature, de notre vocation, de notre destinée pour pouvoir supporter le plan de Dieu. Sinon, je peux déserter cette histoire d'amour qui me relie à lui. Alors, ou bien il m'informe et il me convainc, ou bien je lui dis, je ne peux plus honorer le contrat. Il y a un contrat d'amour entre toi et moi. Eh bien, continue à m'éclairer.
Khaled Roumou, il y a deux choses. Là, vous avez fait allusion à l'épisode de ce dialogue pathétique, extraordinaire, au sens premier du terme. Certains disent qu'il a pu se tenir dans le « à-temps » à préfixe privatif avant même le début du temps contingent, humain, physique, avec tout le symbolisme qu'il y a, lorsque, et même avec l'angélologie qui n'est pas sans poser de sérieuses questions anthropologiques, quand Dieu réunit les hommes, il leur dit « Que penseriez-vous si je créais sur terre un vicaire ? » Et les anges, à l'unisson, répondirent « Seigneur, vas-tu créer celui qui sèmera le chaos, versera le sang et corrompra la terre ?» Et la réponse de Dieu, en défendant le genre humain, disait « Mais je sais ce que vous ignorez. » Et les anges répondirent cette fois-ci « Seigneur, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné, gloire à toi. » Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est, vous dites, il faut que je sois convaincu, enfin quelque chose comme ça. Mais vous ne pensez pas que la foi, c'est aussi une question de confiance, de lâcher prise, de fidélité, qui ne relève pas de l'ordre de la conviction. Je le dis d'autant plus que vous avez dit vous-même, vous savez... c'est plutôt une faiblesse, mais peut-être que cette faiblesse est une force. Or, dans l'ordre de l'amour, dit-on, la faiblesse est une force.
Alors, mon cher Aleb, je vais user d'images ou de réalités concrètes toutes proches. Vous étiez amoureux, vous êtes toujours, j'espère. Vous attendez cet être cher sur le quai du train. Vous voyez que l'affichage annonce que le train arrive à l'heure. Mais jusqu'à la dernière seconde, vous entretenez cette inquiétude qui est mêlée à une nostalgie, à un désir de retrouvailles. Ce mélange de sentiments qui est très subtil, c'est notre lot sur cette terre. La foi, oui, c'est cela. Évidemment, je fais confiance.
Mais ça ne relève pas de la conviction.
Non, je fais confiance.
Où nous sommes convaincus que le train arriverait.
Oui, oui, justement. Mais il y a toujours... C'est-à-dire... Même il y a les haut-parleurs qui vous disent le train arrive à l'heure, etc. Tout cela est assuré, chronométré, minuté, etc. Et pourtant, vous n'êtes rassuré que lorsque il y a retrouvailles. La foi relève des retrouvailles. Or, tous les mystiques, tous les soufis du monde parlent de ces retrouvailles instantanées, jamais durables. François d'Assise, que j'aime à citer parce que c'est mon frère chrétien le plus proche, après Jésus, enfin Jésus n'était pas chrétien, hein. Il faut le rappeler.
Oui. Bon. Et les chrétiens sont ceux qui suivent celui qui est loin de Dieu, loin à l'apostrophe.
Oui, donc ils sont ses disciples. Donc François d'Assise, vers la fin de sa vie, il courait dans la campagne et il disait à Dieu, parla mia, parle-moi. Au début, il était tout feu, tout flamme. Il va retaper la chapelle, et devant l'évêque, le papa lui dit « Mais les vêtements que tu as sur toi m'appartiennent, tu veux devenir moine, etc. » Il enlève ses vêtements, il les donne à son papa, et l'évêque le couvre de son menton. Donc, et tout cela, mais vers la fin de sa vie, c'est comme s'il le perdait. tout ce qu'il avait fait, construire un ordre, aller jusqu'en Égypte pour convertir les musulmans, etc.
Et sa rencontre avec le sultan Malik al-Kamil en 1219 à Damiette.
Exactement. Tout cela a disparu et il lui restait que cette soif, cette faim, par la mia. Il lui dit pas, montre-toi. Mais il suffit de lui parler dans son cœur. Donc, les amoureux de tout, de toute catégorie le savent. Il y a un soufi qui dit, qui a été commenté par Cheikh Al-Alaoui, c'est Boumediene, votre grande figure algérienne. Il fait la différence entre les aimés et ceux qui aiment. Alors, les aimés de Dieu sont toujours peinards. Et ceux qui aiment, Al-Muhibboun,
sont tourmentés.
Exactement. Et pourquoi est-ce comme ça? Je ne le sais pas. Je ne dis pas que je subisse. Je dis plutôt, je sens, j'éprouve et je demande un sens pas intellectuel. Si, il faut satisfaire l'intellect. Je demande un sens qui relève des sens. J'ai une amie religieuse, Xavier. Je pense à elle, je prie pour elle. Elle descend la rue Mouftar, elle va à l'église. Je dis, mais pourquoi tu boites? Ah, j'ai mal au genou, Khaled, je souffre beaucoup. Elle était vraiment... Je lui ai dit, c'est pas grave, je dis son prénom par amour. Catherine, tu vas à l'église? Oui. À la messe? Oui. Je lui ai dit, demande à Dieu, à ton Dieu, quel est le sens de cette épreuve? Sinon, ce serait absurde.
Sinon, ce serait aussi du dolorisme.
Exactement. Même ce
non,
serait,
ce que vous lui demandez.
C'est-à-dire, ce serait absurde de la part de Dieu de nous infliger des épreuves sans nous donner le sens, pas intellectuel, mais un sens profond de consolation, j'allais dire. Et bon, il paraît, certains le disent, moi ça m'arrive parfois, pour être honnête, que suite à une épreuve, j'éprouve des délices de consolation et de rencontre.
Et sœur Catherine, cette Xavier, a fait l'expérience?
Elle était reconnaissante. Parce que je l'ai aidé à aller dans le sens de la recherche du sens que la douleur lui faisait oublier. Donc,
je persiste à poser la question sur y a-t-il une sorte d'expiation, à supposer qu'on l'ait à le faire, dans une approche doloriste de la relation à Dieu?
Je ne sais pas. De toute façon, moi je dis à... aux gens qui me font confiance dans mes ateliers, entrer dans l'intimité de l'univers coranique, et j'ajoute, et sortez-en indemne. D'ailleurs, l'assistance, elle peut être musulmane, pratiquante, non pratiquante, juive, agnostique, chrétienne, etc. Dis, sortez-en indemne, le but n'est ni de vous convertir à Dieu, ni à l'islam. Et s'il y en a, par humour, je dis, s'il y en a qui se convertissent, je serais déçu, parce que ça veut dire que j'aurais mal fait mon travail. Bon.
Sauf si la conversion est prise dans son sens étymologique d'une métanoïa, d'un retournement, d'une révolution.
Mais ça concerne la personne elle-même, mais pas mon désir à moi. Mon désir, c'est de créer une sorte d'éveil, d'aider les gens par... Et donc, j'ai oublié le début de la... C'était quoi votre question, Raleigh?
Ma question, c'est... j'essaye de comprendre simplement... D'aucuns fustigent, et non sans raison, l'approche doloriste de l'expression de foi.
Mais
on est éprouvé sur terre, faut-il la donner comme une sorte d'holocauste à Dieu?
Moi je dis certainement non, il faut dire je ne sais pas à ce moment-là.
Et donc de ce point de vue-là, vous êtes agnostique au sens étymologique du terme.
Exactement, et mon agnosticisme protège mon expérience d'amour de Dieu. Dans ce sens, où je dis justement à cette assistance, Choufo, je leur apprends quelques mots en arabe, Choufo, dis, regardez. Vous rappelez-vous que vous avez demandé à Dieu de venir au monde? Ils se mettent à défendre Dieu. Je dis, mais il ne faut pas qu'il y ait des procureurs de Dieu. Il faut qu'il y ait des avocats de l'être humain. Mais pensez à votre condition. Défendez-vous, pas contre Dieu, mais auprès de Dieu. Défendez-vous les uns les autres. Nous avons des droits sur Dieu. Et c'est lui qui le dit. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Votre Seigneur a prescrit sur lui-même d'être miséricordieux. C'est une prescription, c'est une constitution divine. Donc, puisons dans cette promesse. Après, je leur dis, c'est vous qui avez fixé les lois de la création? Est-ce qu'on a été consulté? Etc. Évidemment.
Enfin, la suite des pourquoi ne s'interrompt pas, dit-on, seuls les philosophes et les enfants ne l'interrompent pas, et les philosophes parfois se fatiguent. Donc le pourquoi sommes-nous là, pourquoi sommes-nous nés de tels parents, à tel endroit, dans telle situation, à un moment particulier, ce sont les sempiternelles questions qui taraudent l'homme et auxquelles il est toujours confronté. La question des origines, le sens de la vie, certes, mais surtout les questions des fins dernières et les questions eschatologiques. La téléologie, le but de la vie.
Oui, et si l'être humain s'arrête, arrête ce flux bénéfique d'interrogation, il meurt. Il meurt en tant qu'être humain.
Parce qu'il végète.
Exactement. Et encore, les plantes ont une vocation que nous ne connaissons pas. Lui, il trahit sa vocation. Un pommier qui donne une pomme, il est noble. Un chat qui est fidèle, enfin, même s'il a sa liberté, etc. Les animaux aussi ont des vocations. Mais l'être humain, quand il renonce à cela, il n'est plus un être humain. Il n'est ni minéral, ni végétal, ni animal. Il est un robot.
Il se reproduit.
Et
il
mange. Oui, bon, mais peut-être par une grâce de Dieu, ses enfants resteront éveillés. Non, on le souhaite. Néanmoins, moi je crois, et là je donne ma réponse personnelle, ces questions sont en lien avec la réponse que Dieu donne aux anges. Je sais ce que vous ne savez pas. Or, il faut imaginer un océan de science et de connaissances qui est de notre ordre, qui est de l'ordre, je dis bien salvateur, c'est-à-dire la guérison de l'âme. On en a besoin. Et toutes ces questions proviennent de cet océan. Autrement dit, il y a une grande réponse qui est faite d'amour, de miséricorde, de justice, de bonté, de beauté, de tous les absolus auxquels aspire l'esprit humain. Et à cet océan qui accouche des questions. Autrement dit, la réponse se trouve avant la question. La question est la fille de la réponse. Et quand je me pose la question, je bénéficie des gouttes de cet océan. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de mécanique, une question génère l'autre. Non, c'est un besoin ontologique, existentiel, fondamental qui demande à être satisfait. Et plus je pose des questions à Dieu, plus je suis dans l'obéissance de son plan. Parce que ce vicaire dont vous avez parlé tout à l'heure...
Parce que la notion du vicariat est centrale dans la théologie islamique.
Justement, mais imaginez Dieu sur terre. Ça va être beau, ça va être juste, ça va être jouissif. Il faut insister sur ce terme. La foi ne doit pas être terne. Le rapport à Dieu n'entraîne pas la dépression. Or, on n'arrive pas, vous voyez, il faut qu'on y revienne. La plupart, un certain nombre de responsables religieux ou ceux qui se proclament comme tels sont déprimants et déprimés. Il y a de la joie.
C'est Nietzsche qui disait à la sortie d'une messe, regardant les fidèles, je suis pas sûr qu'ils aient l'assurance d'être sauvés par Dieu à avoir leur mine patibulaire.
on redit la même chose à notre siècle. Est-ce qu'on pourrait dire un mot Ralep de cet ouvrage, L'enfant voyageur, parce que...
Vous l'avez écrit sans référence à Dieu, on dira plus qu'un mot, bien entendu. C'est-à-dire que dans votre esprit, si j'ai bien compris, il y a là une sorte de conte philosophique où on peut arriver à la transcendance sans nécessairement verbaliser les termes, les vocables qui désignent la divinité, la spiritualité, des choses de cet ordre.
Tout à fait, ça me fait plaisir de vous l'entendre. C'est comme si vous l'aviez écrit avec moi, et c'était vraiment un plan qui s'est imposé à moi. Et imaginez-vous que, par exemple, je voulais utiliser des noms propres, même fictifs, je n'arrivais pas. C'était comme une interdiction. Je voulais nommer des lieux, je ne pouvais pas. Je voulais dire des époques, je ne pouvais pas. C'est comme si mon but était de sonder cette expérience qui remonte jusqu'à l'enfance, enfin jusqu'à la naissance de la conscience, et pour l'introduire dans un océan d'humanisme pas d'histoire de l'humanité, d'humanisme vécu, hérité d'une génération à l'autre, afin que ça fasse partie de cet universel vibrant. Ce n'est pas un universel théorique. C'est ça, après j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à mettre des noms propres ni des dates. Il y a un seul nom propre que j'ai mis dans une sorte de postface à la fin, c'est le nom d'un ami. Parce qu'après la tragédie de la Syrie, et ce que le peuple syrien souffre, et j'ai écrit cette postface pour... c'est masculin ou féminin, postface?
C'est une postface, mais voilà, nous avons compris.
Voilà, mais ça fait rien, mais j'ai peur de faire des fautes en français.
Je vous en prie.
En même temps, je suis présenté comme écrivain. Non, mais il ne faut pas... il ne faut pas plaisanter avec ça. Donc, j'ai juste nommé un ami. Mais dans la postface, pas dans le corps de... Pour la deuxième édition. Alors, pour faire l'enjambement, comme on nous apprenait, je voudrais citer une phrase de ce livre que j'ai appelé « Quand s'exhale ton parfum ». Si vous permettez, voilà, je voudrais le lire. Et comme ça, on verra que je ne me dérobe pas en tant que musulman, ayant la foi en Dieu. Je le dis dans ce livre-là, c'est des instantanés spirituels. Mais il y a un passage qui parle de cette solitude fondamentale qui est fondatrice et fondamentale. Alors je parle à Dieu, bon, il y a un ami chrétien qui m'a dit, tu lui parles. J'ai dit, alors je lui parle, il m'a créé. Il trouvait que c'était trop d'un grand théologien connu sur la place. On n'a pas le droit de parler à Dieu directement, voilà. C'est comme ça, mon cher Alep. Qu'on soit musulman, chrétien ou juif, il y a ces interdits. Alors je dis à...
Il y a pourtant une oraison intime, un entretien secret, et dans la conscience, dans l'intimité de la conscience.
Il y a, mais si jamais vous osez parler à Dieu directement, vous vous soustrayez à l'emprise des fonctionnaires de Dieu.
Et les gestionnaires du sacré et les gardiens de la foi.
Exactement, vous leur échappez. Et ça leur fait peur. Et c'est pourquoi on a brûlé des gens, on les a crucifiés. Bon, bref. Alors je lui dis, tu m'as éprouvé, usé, je me suis alors détourné de toi, comme si je te détournais de moi. Tu m'as aussi approché sur le mode de l'aisance, et pourtant, j'y ai trouvé de la peine. Désirant ta proximité, j'ai émigré vers toi, mais le chemin s'est prolongé et le voyage m'a épuisé. C'est alors que je me suis demandé, ce sentiment de manque et d'esseulement vient-il de la séparation d'avec les miens et les intimes, de la nostalgie que j'éprouve pour ma terre natale, ou bien de moi-même, ou plutôt de toi.
Bien, Khaled Roumou, merci de nous avoir lu cet extrait de votre autre livre, « Quand s'exhale ton parfum ». Vous l'avez fait paraître aux éditions Les Deux Océans, à Paris. Nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'islam » avec l'écrivain, le romancier, le poète Khaled Roumou. Vous êtes engagé dans la mouvance du dialogue des cultures et des spiritualités et vous animez cet atelier, l'atelier de...
Entrer dans l'intimité de l'univers coranique.
Et pouvoir en sortir tout en étant...
Et sortez-en, indemne. C'est un ordre, sortez-en indemne.
C'est un impératif. ma curiosité, c'est... est-ce que vous avez du monde? Y a-t-il un noyau insécable de fidèles qui viennent d'édition en édition à ces rencontres-là? Et est-ce qu'ils sortent indemnes, c'est-à-dire qu'ils obéissent à l'injonction?
Alors, c'est plus drôle, si on peut dire que ça. J'avais le droit de faire ça dans une mosquée que je ne nomme pas. Au bout d'un certain temps, on m'a fait comprendre que je ne pouvais plus.
On vous a chassé, pardonnez-moi le terme.
C'est possible, mais je leur suis reconnaissant de m'avoir accueilli pendant 2 à 3 ans. C'était très, très touchant pour mes amis non musulmans d'être accueillis à la mosquée. Bref, je suis allé me réfugier chez mes frères et sœurs chrétiens. Je dis le nom du lieu, le Forum 104, un lieu de rencontre de fraternité tenu par des religieux. Et la direction est laïque. Et je leur dis, je suis un musulman squatteur, je suis un réfugié spirituel. Et je leur dis, le prophète a envoyé à peu près 90 musulmans opprimés à la Mecque chez le roi chrétien d'Abyssinie.
Le négus d'Abyssinie.
Donc moi, je suis un réfugié spirituel chez les chrétiens. Et les gens qui viennent Oui, avant je le faisais en mon nom propre. Après, le forum a décidé de l'adopter et il figure sur le programme du forum, ce qui me touche énormément. Et évidemment, il n'y a aucune mise sur mon éventuelle conversion au christianisme de la part de ces chrétiens qui, pour moi, sont vraiment dans la ligne de l'enseignement de Jésus. C'est comme ça que j'aime Jésus, c'est comme ça que j'aime les évangiles. Alors, le public se renouvelle et une fois, il y avait un révolté. C'est un 68ard, j'allais dire attardé, mais à son honneur, parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Il a été en révolte contre sa propre foi chrétienne. Et donc, à force d'entendre parler de Dieu à travers une autre tradition, il a réussi à réhabiliter ce qui est beau dans le message évangélique. Tout est beau. Mais en tout cas, il l'a reçu directement, au lieu de passer par les institutions. Et un jour, il me dit, il est assez souvent un peu, voilà, comment dirais-je, pour oublier sa peine, il boit. Il m'a dit dans une ivresse, mais magnifique spirituelle, Khaled, c'est grâce à cet atelier que moi, je retrouve la foi. Mais j'ai dit, je ne suis coupable de rien, je m'en lave les mains. Je donne cet exemple pour dire que quand les choses sont présentées de la sorte, je ne fais que partager avec vous ma connaissance de l'arabe pour chercher toutes les connotations d'un terme que la traduction, n'est-ce pas, ne rend pas. Et avec
vous parlez d'une exégèse du texte coranique que vous présentez, mais dans une facture spirituelle.
Si vous voulez exégèse, oui, c'est un mot assez bon, pesant, enfin énorme pour moi. Je ne sais pas si je peux être exégète. J'ai fait littérature française, puis-je être exégète? Les savants, les orientalistes, les théologiens vont me dénier cette qualité. Donc je dis,
vous savez, ce sont les exégètes de l'interdiction de l'exégèse.
Donc, râler publiquement, je m'en lave les mains pour qu'on ne m'attaque pas. En tout cas, ce que je leur dis avec des poèmes, des paroles de soufis, de mystiques chrétiens, hindous, bouddhistes, juifs, de paroles d'agnostiques, aussi avec des expériences vécues, je pousse tout le monde à s'exprimer. Je dis, je ne suis pas, si vous ne parlez pas, moi je ne parle plus. C'est un partage. Et donc, ça a une vertu... je ne sais pas, qui aide les... Je me rappelle une fois, je demandais à l'Assemblée de commenter une courte sourate, Al-Kawthar.
Du nom d'une rivière qui serait ou qui est au paradis céleste.
Et moi, je passais sur le mot sans le sonder, jusqu'au jour où je me suis dit, mais il faut trouver l'étymologie. C'est Kathora, c'est-à-dire se démultiplier, donc le Kautha, c'est la surabondance, etc.
Qui donne un prénom féminin.
Exactement. Et ensuite, je vais vers les soufis, je trouve que c'était ça, le commentaire juste. Mais parce que je me dis, qu'a-t-il à faire le prophète d'une rivière au paradis? Parce que le monde ne sera plus le monde d'après le Coran. Il n'y aura pas la presqu'île d'Arabie, sèche et déserte. Et après, il invitera ses copains pour passer les vacances chez lui. En tout cas, c'est absurde. Et alors, je leur dis, qu'est-ce que c'est le Kautha? Après avoir écarté cette... Et c'est une religieuse, Dominique, que j'aime beaucoup, qui donne le... Elle dit, il faut relier ça au début, le Qurayshite qui disait au prophète, tu n'as pas de descendance mâle. Dieu lui dit, je t'ai donné le Kawthar. Et elle me dit, c'est tous les descendants spirituels des prophètes. C'est ça sa progéniture.
Oui. Rappelons les choses, c'est que dans... L'ambiance de l'Arabie du 7e siècle et la mentalité des sémites arabes, ne pas avoir une descendance mâle est une sorte de mutilation.
Tout à fait.
Donc le prophète a été brocardé ainsi et c'est comme une récompense de Dieu de lui dire il y a encore meilleur que cela. Ce n'est pas le sens premier, c'est-à-dire que tu auras une rivière dans le paradis, dont le symbolisme est à revoir, mais plutôt une sorte d'une descendance symbolique et spirituelle de ses disciples.
Tout à fait, tout à fait. Alors c'est la religieuse chrétienne qui a trouvé le sens du verset coranique, et ça c'est beau. C'est-à-dire, j'ai une fois invité un psychanalyste aussi pour interpréter l'épisode du personnage initiateur qui accompagnait Moïse, et il a sorti des perles de ce passage, dire que le Coran n'est pas la propriété des musulmans. C'est un livre maintenant, c'est un livre qui est proposé à tout lecteur, toute lectrice. Il y trouve son bien et il n'est pas obligé de se convertir à l'islam. Oh là là, ça nous... Et alors je me calme. De même, moi je me nourris dans la Bhagavad Gita, les évangiles, la Torah et d'autres écrits. Je lis l'histoire des religions de Mircea Eliade, mais je ne me convertis pas à ces religions-là. Je reste un musulman historique, mais spirituel aussi, c'est-à-dire je m'en remets à Dieu, selon la parole de Jésus, que votre volonté soit faite. Et c'est ça, moi je dirais, le dialogue des cultures, parce que quand même la religion est une culture, heureusement.
Ou du moins elle est sous-tendue par une ou des cultures, et elle s'articule dans l'histoire.
Exactement. Et donc pourquoi est-ce que les êtres humains, je ne parle pas que des musulmans, ne nagent pas dans cet océan de connaissances en allant d'un jardin à l'autre pour humer tous les parfums? Mais pourquoi est-ce qu'on s'emprisonne soi-même dans une vision étriquée de notre destinée? Ça me révolte toujours, mais je me dis que peut-être notre humble rôle, c'est de le dire avec beaucoup d'amour.
Parfois, en élargissant l'horizon.
Exactement, parfois en le criant pour leur dire « mon cri est un cri d'amour, ce n'est pas un cri de colère ». S'il vous plaît, réveillez-vous, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes sensible, faites confiance à ce qui habite votre cœur et votre esprit.
Alors faisons confiance, ce sera le maître mot et le mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup Khaled Roumou. Je le dis pour les auditeurs, vous êtes écrivain, romancier, poète, engagé dans la mouvance et le chant du dialogue des cultures et des spiritualités. Vous animez cet atelier « Entrez dans l'univers coranique et sortez-en ».
Indemne, dans l'intimité.
Dans l'intimité.
De l'univers.
De l'univers coranique.
Alors,
là, nous avons parlé de deux ouvrages. « Quand s'exalte ton parfum », paru aux éditions Les Deux Océans à Paris. Et puis, « L'enfant voyageur », votre conte initiatique, un conte philosophique, chez Éric Bonnier. Vous retrouvez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site de franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claire Levasseur et la réalisation a été faite et assumée par l'ami Franck Lilin.
Hashem alayich biglal echadoni Likrat kala benishava
Terror ikralle